C'est le thème de mon message. Donc le Seigneur fait bien les choses, même si on ne se consulte pas. Alors, quelques-uns se sont présentés avant moi pour dire qui ils sont quand ils prennent la parole. Donc moi c'est Jackie Firne, je fais partie de cette église. Je la fréquente depuis 1981. Donc vous voyez, je ne suis pas tout jeune, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et donc, je vous propose de prier. Merci de pouvoir nous approcher de ce divin berger, nous appuyer sur lui et de savoir que nous ne sommes que des brebis et que c'est lui qui a la responsabilité du troupeau. Nous devons veiller et nous devons être à l'écoute de la voix du berger pour la reconnaître. Et ce matin, nous sommes là, Père, devant toi et nous te demandons. Parle-nous, que ton Esprit Saint sonde nos cœurs, que chacun soit réconforté dans sa situation, que chacun ait une parole de ta part qui puisse l'accompagner dans les jours qui viennent et jusqu'au bout. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quelqu'un peut me dire dans quel contexte Jésus a demandé cela? Le juge inique, exactement. On va juste lire cela. Donc, Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse !» Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, j'irai lui faire justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge unique. » Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, on a placé un peu le contexte de ce verset, mais le contexte de cette parabole, c'est dans... Ça fait suite au discours sur la fin des temps. Et dans Luc 17, on va juste lire les versets 22 à 30 pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours des fils de l'homme, du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, « Il est ici, il est là. » N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Alors juste une nuance, André a parlé de Noé. Et pour Lot, ici, les hommes font pareil, sauf qu'apparemment ils ne se marient plus. C'est un peu révélateur. Il n'est pas question. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et il n'est pas question de mariage. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus la peine. C'est juste révélateur. Je tenais juste à placer le contexte. Donc, et après ce passage, Jésus parle par cette parabole du juge inique. Et comme nous l'avons vu, des jours viendront où la présence de Christ ne sera pas visible, sensible, même pour les croyants. Hein. Les ténèbres augmenteront. Et c'est une épreuve pour les croyants. Des séducteurs qui entraînent sur des fausses pistes. Il est ici, il est là, courez, venez, venez, on a trouvé. N'allez pas, ne courez pas après. Son retour sera fulgurant comme l'éclair. Hein. On a déjà entendu, dans plusieurs générations, aujourd'hui aussi, il faut aller ici, il faut aller là, Christ est là. Et son retour sera fulgurant. Pour ne pas être complètement pris au dépourvu, car chacun sera surpris ce jour-là. On ne peut pas dire que tout le monde sera là à attendre. On sera surpris ce jour-là. C'est la parole qu'il dit. Au moment où personne ne l'attend. Et donc, un passage dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, nous dit, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre lorsqu'il reviendra ?» Ça, je retourne à ce passage. Alors la foi, André en a parlé, la foi c'est quoi? Qu'est-ce que le Fils de l'homme désire trouver quand il revient? D'après le dictionnaire, ça vient du latin fides, un engagement, un lien. Donc ça c'est la foi. Ça, c'est... On a une explication du dico qui dit confiance en quelqu'un ou en quelque chose, avoir foi. On dit, il n'a ni foi, ni loi, ni religion, ni conscience. Hein, ça, c'est des termes qui sont dans le dictionnaire. La question de Jésus n'est pas, trouverai-je la religion sur terre? Car cela ne fait aucun doute pour lui. L'homme est religieux par nature. S'il ne veut pas croire dans le Dieu de la Bible, il s'invente d'autres dieux. Même l'athée s'inventera des dieux à sa façon. La religion, c'est tout ce que l'homme veut, peut faire pour plaire à son Dieu, pour se sauver. Ça, c'est la religion. La foi, c'est mettre sa confiance en ce que quelqu'un a accompli pour me sauver. Ça, c'est la foi. Pas compter sur moi, compter sur quelqu'un d'autre qui veut me sauver. Je ne peux pas me sauver, il y a quelqu'un qui peut me sauver. La religion est une longue liste de règles qui, si je les applique, me donne peut-être le salut. Inch'Allah, si Dieu veut, hein, et il y en a parmi les chrétiens aussi, les chrétiens de nom en tout cas, qui disent « je pense » ou « j'espère », mais ce n'est pas une certitude, parce qu'ils comptent sur leur religiosité. La foi, c'est avoir l'assurance que quelqu'un s'est chargé de mes égarements, de mes faiblesses, de mes péchés, qu'il a réglé mes dettes pour que je sois libre pour m'approcher de Dieu, sans la crainte d'être rejeté. Dans la religion, au moindre faux pas, je prends un coup. Hein. Et bon, les hindous, par exemple, ils croient à la réincarnation. Ils espèrent que la prochaine fois, ça sera mieux, parce qu'une vie ne suffit pas. Et c'est un mensonge. Jésus a parlé de la foi d'un petit enfant, toute simple, tout en confiance. Un enfant croit sur parole et il se sent bien à proximité de ses parents. De même, dans Jean 1, 12, il nous est certifié à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, ou Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est acquis. On est loin ici des proverbes populaires, du proverbe populaire allemand qui dit « Es wird jeder selig nach seiner façon ». On a entendu ça. Quelques-uns le connaissent, qui comprennent. Je traduis. Chacun sera sauvé selon ses choix. Et donc, c'est surtout dans les milieux un peu comiques où on utilise ça en allemand, ou dans la bonne société, comme ça, on ne se fricote pas avec les autres. Chacun fait comme il veut et on sera tous. Et en français, il y a ce chant, nous irons tous au paradis. Hein? Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous n'irons pas tous au paradis. La voie du salut prévue, établie par le Dieu de l'univers, s'appelle Jésus-Christ. Sacrifié pour porter, effacer tout ce qui nous séparait de Dieu. Et ce sacrifice est suffisant pour racheter l'humanité entière. Ce sang suffirait pour les 8 milliards qui sont là sur Terre en ce moment, plus tous les milliards de personnes qui, depuis Jésus, depuis la création même, ont vécu sur Terre. Ce sang est suffisant, largement. Il est le créateur de tout. Celui que nous appelons notre Père, notre Papa Céleste, nous demande juste de reconnaître le fossé qui nous sépare de sa présence à cause de nos natures malade du péché. Ce que Dieu demande, c'est juste de reconnaître qu'il y a un fossé qu'on ne peut pas franchir et que Jésus a fait le nécessaire. Tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu. As-tu fait ce choix? Il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu dans Jean 1. As-tu fait ce choix? C'est quand même une question déterminante. Un enfant qui vient au monde connaît rapidement la voix de sa maman et de son papa. Il réagit de plus en plus à la présence de ses parents. Au fur et à mesure qu'il grandit, il veut aussi attirer leur attention. Et les parents se réjouissent d'être témoins des progrès de cette relation. Revenons à la parabole du juge inique. Quel est le but visé par Jésus en racontant cette parabole ? Luc 18:1, il est dit « Jésus veut montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. » Toujours prier et ne pas se relâcher, pas seulement ponctuellement, mais toujours. Dieu ne veut pas de religion, quelques règles, traditions à observer, il veut une relation simple et franche. Père, tu vois mes soucis, mes faiblesses, mes côtés obscurs, mes joies, mes espoirs, mes peurs, mes limites. Viens à mon secours, que je marche selon tes plans pour ma vie. Cette attitude est libératrice, car nous quittons le carcan du mensonge. Genre, ce n'est pas moi, c'est les autres, quand ça ne va pas. C'est ce face-à-face que Dieu souhaite. Ce dialogue avec Dieu dans notre quotidien. Cette relation n'est pas ponctuelle, Dieu la veut permanente, car il veut nous aider. C'est comme ça qu'il peut, d'une pierre brute, faire un joyau de grand prix. Il veut que nous soyons un témoin de sa gloire, de sa grâce pour nos contemporains. Mais c'est lui qui façonne, parce que si nous essayons de nous transformer, c'est un fiasco. Notre foi ne doit pas se résumer à une connaissance intellectuelle de vérité biblique et de quelques règles de vie qui diffèrent de celles du monde. Souvent, c'est un peu à quoi ça se résume. On a quelques notions bibliques et des règles qui ne sont pas les mêmes que le monde. Je ne fais pas ceci, je fais ça, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça le résumé de notre foi. C'est au travers de cette relation simple, enfantine avec notre Papa Céleste, que nous pouvons progresser dans l'amour envers lui et envers les autres. Si cette relation est entretenue, nous attendons son retour et nous ne serons pas confondus, honteux. Chacun d'entre nous a une vocation différente par rapport aux autres. J'ai cité l'exemple de cette maison où ce ne sont pas des briques qui sortent d'un moule, mais des pierres de taille que le Seigneur taille et qui sont différentes et qu'il rassemble pour faire quelque chose de magnifique. Nous avons une vocation différente par rapport aux autres, par nos métiers, nos milieux sociaux, nos lieux d'habitation, nos familles, nos amis. Notre défi, c'est déposer nos circonstances aux pieds du Père pour simplement lui dire nos problèmes. Fais-moi justice de mes parties adverses, comme disait la veuve. Fais-moi justice de mes parties adverses. Demander justice, c'est parfois, souvent aussi découvrir notre propre injustice. Quand nous demandons à Dieu la justice et qu'il nous fasse justice, nous constatons que nous-mêmes, nous avons besoin d'être justifiés par lui. Notre Père veut nous aider à accepter sa lumière dans nos vies, pas la lumière du monde. Et elle en projette en ce moment, le monde, il en projette des lumières. Il sait ce qui ne va pas, il veut juste que nous le lui déposions librement, ce qui ne va pas. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, Luc 18,7, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est Jésus qui le dit. Dieu veut exaucer les prières de ses enfants. Mais laissons-lui la place, laissons sa lumière en nous. Le juge unique a finalement cédé à la requête de la veuve, non par compassion, mais pour avoir la paix, pour être débarrassé de cette femme gênante, qu'elle arrête de lui casser la tête. Certaines traductions modernes disent ça, autre. Dans ma Bible c'est marqué « rompre la tête », c'est exactement pareil. Est-ce peut-être notre vision de Dieu ? De nous adresser à Dieu comme au juge unique, c'est une vision erronée. Alors, il faut prier. Et dans le Notre Pain quotidien, je voulais le lire cette semaine en réunion de prière, j'ai trouvé quelque chose qui tombait ce mardi matin, donc mardi dernier. La bonne façon de prier. J'admire les gens qui notent des requêtes de prière dans un journal intime, usé d'avoir été employé au quotidien. Ceux qui font le suivi de chaque prière et de chaque louange pour ensuite fidèlement mettre à jour leur liste. Ceux qui se réunissent avec d'autres pour prier et ceux qui usent la moquette à côté de leur lit m'inspirent. Pendant des années, j'ai tenté d'imiter la discipline, la formidable vie de prière et l'éloquence des gens qui sont tellement plus expressifs que moi. Je me suis efforcé de percer ce que je croyais être un mystère, cherchant à apprendre la bonne façon de prier. En définitive, j'ai compris que notre Seigneur désire simplement que nos prières soient empreintes d'humilité. Il nous invite à participer à un échange intime par lequel il promet de nous écouter. Il n'exige jamais que nous ayons recours à des expressions ou à des mots recherchés ou mémorisés. Il nous assure que la prière est un don, une occasion d'honorer sa majesté, d'exprimer notre confiance en sa générosité et d'affirmer être en sécurité dans son pardon et sa direction. Dieu nous assure qu'il tend l'oreille avec intérêt à toute prière, exprimée ou non, ainsi que celle qui coule en silence sur nos joues sous forme de larmes. Si nous mettons notre foi en Dieu et en son amour parfait, nous avons la certitude qu'en priant d'un cœur humble, soumis à lui et dépendant de lui, nous le prierons toujours de la bonne façon. Ça remet des choses en place pour chacun d'entre nous. Cette dame ne dit pas qu'il ne faut pas aller aux réunions de prière. Et ce n'est certainement pas mon idée. Si on peut se rassembler, c'est parfois et souvent plus simple que de prier seul. Et on a aussi des objectifs de prière communs. Si on peut se réunir, je vous encourage tous, ceux qui peuvent se libérer, d'aller à l'une ou l'autre de ces réunions, ainsi que ce soir. Parce que quand nous avons cette promesse, quand nous sommes à deux ou à trois, ben, Jésus est au milieu de nous. Cette parole, elle est là. Mais il ne faut pas se complexer et lui dire simplement, « Père, tu vois comment je suis. Je viens devant toi, tu connais mon cœur. » Et c'est vrai qu'il y en a, je fais partie de ceux qui ouvrent toujours un peu la bouche quand il s'agit de prier, mais Dieu aime que chacun de ses enfants s'approche de lui et lui dise ce qu'il a sur le cœur, dans le cœur. La prière est la ligne téléphonique qui nous relie au Père. Veillons à ne pas couper cette ligne qui est vitale pour notre foi. Parce que, vous voyez, Jésus a parlé, est-ce que je trouverai la foi? Mais avant, il dit, veillez et priez, en tout temps. Et c'est cette ligne à utiliser. À l'époque de Jésus, une veuve n'avait pas de droit. Cette veuve qui est allée vers le juge, elle n'avait aucun droit. Le mari était le garant de la famille. Lorsqu'il disparaissait, la veuve était abandonnée à son sort, sauf si, comme en Israël, un proche exerçait son droit de rachat, comme Boaz l'a fait pour Ruth. Il y en a eu d'autres. Ça, mais autrement, une veuve, elle n'était rien. Chez Élie ou Élisée, la veuve, avec ses deux fils, ne pouvait plus rien faire. Elle avait un peu d'huile. Elle est allée voir le prophète parce qu'on voulait lui enlever les fils. Elle n'aurait même pas pu empêcher que quelqu'un lui prenne ses fils à cause des dettes. Et là, Élie est intervenu. La veuve de la parabole a réclamé justice avec peu de chances de l'obtenir. C'est une image de la grâce. Elle a eu justice. Nous avons un accès libre à la justice de Dieu. Car Jésus a exercé son droit de rachat sur nous. Nous avons l'accès maintenant. Et nous avons quelqu'un qui nous fait droit. Alors, sommes-nous dans l'attente du retour de Jésus, en soignant cette relation franche, permanente avec le Père? Nous pouvons humblement vivre notre quotidien en sachant que notre temps n'est pas perdu. N'importe quoi que nous fassions, si nous sommes dans la présence de Dieu, ce n'est pas des moments très spéciaux. Chaque moment est spécial pour le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est un encouragement, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, si vous ramassez des détritus par terre, si vous balayez, n'importe, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Déjà, j'ai une autre attitude, je ne suis pas aigri parce que je me tape des boulots qui ne me plaisent pas. Je le fais comme pour mon maître, pour mon sauveur. Actuellement, ceux qui semblent triompher dans le monde sont ceux qui s'élèvent en écrasant leurs contemporains. C'est l'image que nous avons des gens connus actuellement. Ce sont ceux qui s'élèvent en écrasant leurs contemporains. On exploite et on jette ceux qui sont usés. C'est vraiment ce qui se passe. D'abord, pendant quelques décennies, on a travaillé avec les pays de l'Est qui étaient en retard. Après, ils ont pris notre niveau. Donc, on est allé plus loin. Maintenant, on est en Asie, en Extrême-Orient. Et chaque fois, on a exploité des gens pour que nous puissions vivre dans le luxe ou avec tout ce que nous désirons, sans restriction, pour peu cher, parce que des gens sont exploités. Et après, ben, on laisse tomber, avec toutes les pollutions, tout ce qui s'ensuit. On accumule des fortunes en détroussant le peuple. Il y a toujours des vases communicants. Si quelqu'un accumule des milliards, ben, il y en a beaucoup d'autres qui perdent. Certains justifient leurs actions perverses en édulcorant leur discours avec quelques bribes bien choisies de la loi de Dieu. En 36-37, je l'ai déjà cité, Adolf Hitler disait « Moi et Dieu, nous avons décidé ». Mais c'est vrai, Et sur les ceinturons, c'était Gott mit uns, Dieu avec nous. Et ça a suffi à pratiquement tout un peuple de suivre, et pas seulement le peuple allemand, il y en avait beaucoup ici et en Europe qui suivaient. Simplement, et des religieux. Hein, où était l'Église? Elle était effacée. Moi et Dieu, nous avons décidé, sans regarder vraiment le fond. Aujourd'hui, les dictateurs mondiaux, hein, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, s'affichent comme étant les dépositaires de la morale chrétienne. Et ça suffit à beaucoup de monde. Le problème du petit peuple, parce qu'il se fait exploiter, il ne crie pas à Dieu. Il veut sa justice, sa propre justice. Il veut sa part du gâteau. S'il était dans l'autre camp, il ferait pareil. Le vrai sel de la terre, c'est le peuple de Dieu, ceux qui crient à lui. Toi, moi. Le salut ne vient pas d'un système politique ou économique. On peut oublier, ça a été tenté des siècles, des millénaires. Le salut ne vient pas d'un système politique. Il y en a qui sont pires que d'autres, mais aucun n'a la solution pour que ça change vraiment. Le salut vient de Jésus-Christ, et bientôt il revient. Qu'il nous trouve avec de l'huile dans nos lampes. Vous vous rappelez? Les vierges, elles étaient toutes assoupies, elles dormaient toutes, parce qu'il a tardé. Mais il y en avait qui avaient de la réserve, et elles ont pu remplir leurs lampes. Qu'il nous trouve veillants afin que l'ennemi ne nous vole pas le trésor de notre foi. Si un propriétaire savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait. Et qu'il nous trouve gérants équitables de notre mission. Dans Matthieu 24, Jésus raconte l'histoire d'un gérant qui était injuste. Il battait les serviteurs. Et il festoyait avec les ivrognes. Matthieu 24, 49-51, « Mon maître tarde à venir, se dit-il. Il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les ivrognes. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Faisons fructifier nos talents, et non par notre force, mais grâce à une relation authentique avec le Père. Pardon, j'ai un dernier mot. Au fait, Jésus a posé une question. Trouvera-t-il la foi sur terre ? J'ai deux questions. Au fait, crois-tu au retour de Jésus? Oui, mais la question peut se poser. Crois-tu? Bon, intellectuellement, mais crois-tu qu'il peut se présenter là? C'est trop tôt, attends un peu, Seigneur. L'attends-tu? C'était là la question que Jésus a posée. Alors, où en es-tu avec ta foi? Amen. Prions. Père, que nous ayons tous ce courage de nous exposer à ta lumière quotidiennement, avec nos soucis, Seigneur, avec nos faces cachées, de venir devant toi et de dire, toi tu sais, transforme nos cœurs, aide-nous à ne pas être injustes, Seigneur, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, mais à laisser vraiment la transparence gagner nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi parce que tu es le Dieu de grâce et nous voulons te dire que nous attendons le retour de Jésus pour nous enlever. Nous voyons notre monde et Père, nous te demandons que ta lumière luise encore au travers de nous, là où tu nous as placés, que nous puissions encore être ce sel, cette lumière du monde. Telle est notre mission et c'est aussi ce qui nous maintient dans l'attente ton retour. Amen.